Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des outils essentiels de la physique, ceux qui décrivent notre monde. On a des documents qui listent les concepts clés sur les vecteurs et les forces.
Exactement. C'est un peu le langage mathématique, quoi, pour comprendre comment les objets bougent, ou ne bougent pas d'ailleurs.
Notre objectif, c'est donc de clarifier un peu tout ça. C'est quoi un vecteur? Comment on les manipule? Et surtout, comment ça s'applique aux forces?
C'est ça. Et bien distinguer ce qu'on appelle une grandeur scalaire, comme une simple distance, d'une grandeur vectorielle. Une grandeur vectorielle, elle a une direction, un sens, comme une force, justement.
Parfait. Alors, commençons par les vecteurs. Qu'est-ce qui les définit précisément?
Alors, un vecteur, c'est comme une flèche, si on veut. Il a trois choses importantes. Une intensité, on dit aussi module ou norme, c'est sa longueur, sa force en quelque sorte.
Ok, l'intensité.
Oui. Puis une direction, c'est la droite sur laquelle il se trouve. Et enfin, un sens, c'est vers où pointe la flèche sur cette droite.
Un exemple concret peut-être?
Le déplacement. Aller de Paris à Lyon, c'est pas juste 450 km, c'est 450 km vers le sud-est. Ça, c'est un vecteur. L'intensité, la direction, le sens.
Logique. Mais comment on fait des maths avec des flèches? Ça a l'air moins direct que des chiffres?
C'est différent, oui, mais tout à fait faisable. On peut les additionner, par exemple. Si on fait deux déplacements à la suite, le déplacement total, c'est la somme des deux vecteurs.
Comment on fait ça? Additionner des flèches?
Graphiquement, on peut les mettre bout à bout, la pointe de l'un à la queue de l'autre, ou utiliser la règle du parallélogramme. On peut aussi soustraire un vecteur, ce qui revient à ajouter son opposé, la flèche dans l'autre sens.
Et la multiplication?
Ah oui, on peut multiplier un vecteur par un nombre, simple, un scalaire. Ça change sa longueur, son intensité. Et si le nombre est négatif, ça inverse même son sens.
D'accord. Les documents insistent pas mal sur la décomposition d'un vecteur. Pourquoi c'est si important? On dirait qu'on complique avant de simplifier, non?
Très bonne remarque. Ça peut paraître une étape en plus, mais en fait, c'est la clé pour simplifier les calculs complexes, surtout avec plusieurs forces.
Ah bon? Comment ça?
L'idée, c'est de projeter le vecteur sur des axes de référence. Le plus souvent, ce sont des axes perpendiculaires, x et y. On obtient alors ses composantes cartésiennes.
Et c'est là qu'on utilise le cosinus et le sinus mentionnés dans les notes élite C.
Précisément, avec l'angle du vecteur par rapport aux axes, la trigonométrie sinus-cosinus nous donne la valeur de chaque composante.
Et l'intérêt?
L'intérêt, c'est qu'une fois qu'on a les composantes de tous nos vecteurs, pour les additionner, il suffit d'additionner les composantes sur l'axe X ensemble et celles sur l'axe Y ensemble. C'est beaucoup plus simple que de jongler avec les flèches et les angles directement.
Ah oui, d'accord, je vois l'astuce. Bon, maintenant qu'on maîtrise un peu mieux ces vecteurs, passons aux forces. Les documents sont clairs, les forces sont des vecteurs.
Absolument. Une force, c'est une grandeur vectorielle. Elle a une intensité qu'on mesure en newton, N, souvent avec un dynamomètre d'ailleurs.
Oui.
Elle a une direction, un sens. Ça représente une interaction, une poussée, une traction. On distingue les forces de contact, il faut toucher.
Comme pousser une caisse.
Voilà. Et les forces à distance, comme l'aimant ou la gravité. Et quand plusieurs forces agissent, leur effet combiné, c'est la force résultante. C'est la somme vectorielle de toutes ces forces.
Explorons quelques exemples des documents. Le poids, d'abord. Mentionné comme peso dans vos sources italiennes, c'est ça?
C'est exact. Peso, c'est le poids. C'est la force de gravité qu'exerce une planète, comme la Terre, sur un objet. Elle est toujours verticale, vers le bas.
Et elle dépend de quoi?
Elle dépend de la masse de l'objet, massa, dans les notes, et de l'accélération de la pesanteur, ce fameux G, constant G. Sur Terre, G vaut environ 9,8 N/kg, mais sur la Lune, c'est bien moins.
Ah oui, donc on pèse moins lourd sur la Lune, même si notre masse ne change pas.
Exactement. La masse, c'est la quantité de matière. Elle est constante. Le poids, c'est une force. Elle dépend de G.
Ensuite, la force élastique, liée au ressort, je crois. Forza elastica, legge di Hooke.
Oui, tout à fait. La loi de Hooke, legge di Hooke, décrit cette force, forza elastica. Elle dit que la force qu'exerce un ressort, molla, est proportionnelle à son allongement ou à sa compression par rapport à sa longueur quand il est détendu, au repos, longueur da a riposo.
Plus on tire, plus ça résiste.
C'est ça. Et cette proportionnalité dépend de la raideur du ressort, qu'on appelle la constante élastique, costante elastica. Un ressort dur a une grande constante élastique.
Logique. Et pour finir, une force qu'on rencontre tout le temps, le frottement, attrito dans les notes.
Ah oui, l'attrito, le frottement. Il s'oppose au mouvement, soit entre deux surfaces solides qui glissent l'une sur l'autre, c'est le frottement de glissement, attrito radenté, soit dans un fluide, mais ça, on n'en parle pas trop ici.
Et il y a une distinction importante pour le frottement de glissement, non ?
Oui, attention, il faut bien distinguer le frottement statique, statico, du frottement dynamique, dynamico.
C'est-à-dire ?
Le frottement statique, c'est la force qui empêche un objet de commencer à bouger. Si on pousse doucement une armoire, elle ne bouge pas tout de suite, c'est le frottement statique qui résiste. Il peut augmenter jusqu'à un certain maximum.
Et si on pousse plus fort que ce maximum ?
Alors l'objet se met en mouvement. Et là, ce n'est plus le frottement statique qui agit, mais le frottement dynamique ou cinétique. Lui, il s'oppose au glissement une fois que ça bouge.
Et ce frottement dynamique est souvent un peu plus faible que le maximum statique. C'est pour ça qu'on sent parfois un petit à-coup au démarrage.
Exactement, c'est tout à fait ça. Les deux types de frottement dépendent des surfaces en contact et de la force qui les presse l'une contre l'autre, via des coefficients de frottement, coefficients de statique ou dynamico.
Fascinant. Donc, si on résume, les vecteurs, c'est vraiment l'outil mathématique indispensable pour décrire et calculer l'effet des forces. Et ces forces, comme le poids, la force élastique, le frottement, sont elles-mêmes des vecteurs.
C'est tout à fait ça. Une fois qu'on maîtrise les vecteurs, on a vraiment les clés pour analyser quantitativement comment les choses interagissent et bougent autour de nous.
Parfait. Pour terminer et laisser un peu matière à réfléchir, imaginons un objet posé sur un plan incliné, une pente. Comment est-ce que la décomposition du poids de cet objet, en composantes parallèles et perpendiculaires à la pente, interagit avec le frottement, statique ou dynamique, pour déterminer si l'objet reste là, immobile, s'il commence à glisser ou s'il dévale la pente, peut-être même à vitesse constante?
Ah, voilà un excellent exercice. Ça fait intervenir la décomposition vectorielle, le poids et les deux types de frottement. Une belle synthèse.